en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur Béchler, mesdames et messieurs, merci de cette invitation. Je voudrais pour ma part tenter de traiter une question qui a déjà été un petit peu évoquée hier et aujourd'hui même. Il est commun, en effet, d'évoquer un esprit de croisade qui serait consubstantiel à l'art américain de la guerre, tant la démocratie américaine, The Nation Under God, a fourni des exemples éloquents de justification théologique de ces conflits pendant les 20e et 21e siècles. Aux États-Unis, c'est presque un jeu, on dénombre volontiers les croisades successives qui ont jalonné le siècle écoulé et qui présentent d'emblée un sens original, puisque la terre promise n'est pas la finalité, mais au contraire, c'est le lieu même que les troupes américaines ont précisément à quitter. La première croisade humanitaire serait la guerre contre l'Espagne au sujet de Cuba et des Philippines en 1898. La seconde croisade pour la démocratie et la civilisation prendrait place sous le commandement de Woodrow Wilson en 1917. La troisième croisade serait lancée par Franklin Delano Roosevelt en décembre 1941 contre le paganisme totalitaire nazi et le militarisme japonais. La quatrième croisade contre le communisme athée daterait de la guerre froide et serait remportée par Ronald Reagan, surnommé parfois Ronald Cœur de Lion. La dernière croisade serait celle contre le terrorisme de George W. Bush au printemps 2003, tandis que les théologiens conservateurs américains justifiaient la possibilité d'une guerre préventive par un élargissement, il faudrait le mettre des guillemets, un élargissement de la notion augustinienne de la tranquillité de l'ordre, George Bush plaçait toute sa confiance dans le Dieu d'amour, je le cite, et demandait au Seigneur de la vie et de l'histoire de guider le peuple américain. Tel Moïse contre les Amalécites, la Nouvelle Jérusalem ne semble pouvoir vaincre que si les bras de son patriarche, le président des États-Unis, sont tendus vers le ciel. Tel Janus, le Seigneur de miséricorde, The Lord of Mercy en anglais, ne devient jamais si souvent le Seigneur des armées, The Lord of Hosts, The Deus Sabaoth de la liturgie latine, que dans ce siècle de la Pax Americana. S'agit-il d'une mutation idéologique de l'art américain de la guerre au XXe siècle ? La religion doit-elle être prise au sérieux ou n'est-elle qu'un élément rhétorique afin de susciter l'adhésion populaire et galvaniser les troupes ? La religion américaine est-elle au contraire l'illustration d'un christianisme viril et musculaire, comme le suggérait par exemple l'itinéraire de Theodore Roosevelt, tout à la fois pieux chrétien, va-t-en-guerre et grand chasseur de rhinocéros? Le GI américain, comme le Playboy, pourrait aussi, après tout, avoir une âme, ainsi qu'une culture pétrie de références bibliques et façonnée, refaçonnée par une théologie de la guerre, héritée de l'Ancien Testament, relue au prisme des croisades et du puritanisme. Le sens de mon propos sera de brosser une fresque chronologique sur une longue durée, des guerres entre la Nouvelle-France et les 13 colonies britanniques au XVIIe siècle, jusqu'à la guerre en Irak, en évoquant les guerres indiennes, les batailles révolutionnaires, la guerre contre le Mexique, la guerre civile, la guerre contre l'Espagne, les deux guerres mondiales, la guerre froide, les guerres du Golfe, la question israélienne, afin de tenter de trouver une constante religieuse dans l'ensemble des guerres américaines. Rassurez-vous, il n'y a aucune chance pour que je puisse couvrir avec précision l'intégralité de ces conflits, et je passerai donc assez rapidement sur un certain nombre, notamment sur la guerre froide, qui a été davantage examinée dans une perspective religieuse. Mon propos concrètement sera organisé autour de trois grands moments. Un premier moment sur les guerres coloniales, marquées de leur double hostilité contre ces païens d'Amérindiens et contre les catholiques de la Nouvelle-Espagne et de la Nouvelle-France. Un deuxième moment consacré aux guerres révolutionnaires et à la guerre de sécession, qui sont en un sens des querelles de famille. Elles opposent des blancs anglo-saxons protestants, et l'élément religieux, par définition, joue en conséquence sur un mode plus fin. Et enfin, troisième grand moment, les conflits du XXe siècle où les armées américaines entendent prendre pour sainte patronne la divine liberté, et toutes les guerres du XXe siècle me semblent marquées de ce saut-là. Auparavant, avant de parcourir la chronologie, que l'on me permette de formuler trois remarques d'ordre assez général. Je voudrais présenter les singularités de l'usage du terme de croisade aux États-Unis. Je voudrais également décrire un lieu symbolique, le cimetière national d'Arlington à Washington, D.C., Et enfin, je voudrais évoquer le pacifisme d'inspiration chrétienne, qui me semble précisément l'une des données constantes de l'histoire de la guerre aux États-Unis. Première remarque donc sur la notion de croisade. Pour le contexte français, Alphonse Dupron a examiné le mythe de croisade, c'est le titre de ses grands volumes, et a montré les liens intrinsèques de la croisade avec des notions gemellaires, la réalité de chrétienté notamment, et avec des institutions spécifiques, l'Église, la papauté, les ordres militaires au premier chef. Selon Dupron, je le cite, « Depuis le Moyen-Âge, la croisade est temporellement et métaphysiquement liée à la notion de chrétienté. » Or, aux États-Unis, le terme de croisade est d'un usage beaucoup plus commun. On parle pour le XXe siècle d'un âge des croisades. On parle de croisade contre l'esclavage pendant la guerre civile, de croisade contre l'alcoolisme au temps de la prohibition, de croisade nativiste, de croisade sur les campus lancés pour l'évangélisation des étudiants et naturellement, grand classique, de croisade pour la démocratie. L'emploi du terme aux États-Unis ne repose jamais sur la notion médiévale de chrétienté, c'est un truisme, mais sur un substrat culturel caractérisé selon les époques par le puritanisme, l'esprit WASP ou une religion civile élargie au judéo-christianisme, toujours sous le haut commandement du président élu. Cela vient, à mon sens, en contrepoint, redéfinir la notion de croisade. Et il faut dès lors renoncer à se lancer dans le grand jeu des analogies. Alors que Saddam Hussein tente en 2003 de réactualiser à son profit la figure de Saladin, Billy Graham n'est pas le nouvel Urbain II, le cardinal Spellman n'est pas le nouveau Bernard de Clairvaux, George W. Bush n'est pas Saint Louis, on pourrait continuer, les théoriciens néoconservateurs ne sont pas des Raymond de Peignafort, etc. Aux États-Unis, il s'agit de croisades, d'une société protestante dans son fondement, démocratique dans ses prétentions et ses mœurs politiques, avec une finalité idéologique libérale. L'idée de paix démocratique, qui est chère à Tocqueville, et qui consiste à tenir que la démocratie est par principe attachée à la paix, a pour corollaire, non développé par Tocqueville, que la démocratie ne recourt à la guerre que s'il existe une menace sur les libertés fondamentales, à commencer par la liberté de religion. C'est, me semble-t-il, l'exacte position de Franklin Delano Roosevelt dans son discours de janvier 1941, le discours intitulé « Les quatre libertés », où le président américain en vient à définir le périmètre minimal et non négociable des libertés humaines que les États-Unis s'engagent à défendre. Parmi ces quatre libertés fondamentales, on trouve la liberté d'expression, la liberté à l'égard de la peur, la liberté à l'égard du besoin et la liberté de religion. Les diverses croisades américaines portent en elles-mêmes, pour le meilleur ou pour le pire, une redéfinition du terme de croisade conçu dans le cadre de la démocratie libérale. Il faut cependant, c'est ma deuxième remarque, se méfier d'un certain fixisme historique. Héritage discutable du XXe siècle et des guerres les plus récentes, ce fixisme chercherait à imposer le religieux comme principale clé de lecture de la plupart des conflits militaires antérieurs. Tocqueville, lui encore dans « La démocratie en Amérique » de 1835, ne manque pas d'analyser longuement la ferveur religieuse du peuple américain. Il consacre un grand nombre de chapitres à traiter de la question militaire dans une société démocratique. Mais Tocqueville ne relie jamais les deux thèmes. Un argument visible est un passage au cimetière national d'Arlington. Le visiteur repère vite en effet les contradictions du lieu. Il est accueilli comme dans un authentique sanctuaire. Vous avez là un panneau blanc qui accueille le visiteur à l'entrée du cimetière. Le panneau blanc à l'entrée rappelle que le visiteur parcourt là, je cite en anglais, « Our nation's most sacred shrine », c'est-à-dire le sanctuaire le plus sacré de notre nation, dont les terres littéralement sont sanctifiées. « Please remember, these are hallowed grounds ». Le terme « hallowed » est extrêmement important, c'est celui qui est employé dans Notre Père pour dire « que ton nom soit sanctifié ». Les tombes du XXe siècle portent le plus souvent les signes distinctifs de l'appartenance confessionnelle des soldats. On repère sur les photos une croix, une étoile de David, une flamme sur une croix, une langue de feu qui signifie l'évangélisme du soldat enterré. Bon, il y a évidemment aussi des tombes qui n'ont rien, mais ce qui frappe le visiteur, c'est que les tombes de la guerre de sécession, qui sont les plus anciennes et qui sont à l'origine même du cimetière, qui a été bâti en punition sur la propriété du général Lee, eh bien, les tombes du XIXe siècle sont dépourvues de marqueurs religieux. C'est là, à mon sens, le signe d'une moindre importance du facteur religieux dans la guerre de sécession, menée au nord par Abraham Lincoln et le général Grant, qui, ni l'un ni l'autre, n'étaient de chrétiens convaincus. Ils ont été providentialistes un temps, après avoir été sceptiques ou simples déistes, à un moment ou à un autre de leur carrière. La principale guerre qu'ont vécu les États-Unis, puisque La guerre de sécession compte plus de victimes et de blessés que toutes les autres guerres réunies qu'ont vécu les États-Unis. Eh bien, cette guerre de sécession échappe en son leadership et par sa nature même de guerre civile à une lecture simple en termes religieux. La troisième remarque trouve sa source dans la culture populaire des États-Unis. S'il existe de manière indéniable un esprit de croisade parmi l'élite politique, militaire et même religieuse, il faut reconnaître en parallèle l'existence d'un profond pacifisme populaire chrétien dont témoignent à diverses époques les Quakers, les Baptistes, les Frères Moraves, la musique, du spiritual, du gospel, du folk, ainsi qu'un grand nombre de mouvements du XXe siècle, Pax Christi, The Catholic Worker, un certain nombre de théologiens, comme le trappiste Thomas Merton, certains résistants à la conscription pendant la guerre du Vietnam, ou même, de manière plus imagée, les hippies, qui revendiquent à leur manière, et plus qu'on ne l'imagine, les figures du Christ et de Saint François. Deux exemples que je voudrais présenter, le célèbre gospel « Down by the Riverside » de 1927, qui est sans doute, l'impact médiatique populaire de ces chansons sont plus importants à mon sens que les discours de George Bush. Eh bien, le célèbre gospel « Down by the Riverside » est ainsi à la fois le récit et un appel à la conversion à la paix de Dieu. Celui qui chante entend déposer son fardeau près de la rivière et s'engage à ne plus entrer sur le sentier de la guerre, à laisser son épée et son bouclier pour rencontrer le prince de la paix. « I ain't gonna study war no more, gonna lay down my sword and chill down by the riverside, gonna meet the Prince of Peace. » Voilà les refrains de la chanson. Loin du Dieu des armées, dans la culture des spirituals et du gospel, dominent les images du Dieu libérateur, celui qui a conduit les Hébreux hors d'Égypte, et l'image de Jésus, prince de la paix, qui lave les péchés. Le folk song des années 1960 diffuse, à sa manière subversive assez souvent, les anciennes du pacifisme chrétien. Un seul exemple, la célèbre chanson de Bob Dylan de 1964, « With God on our side ». Les premières strophes développent la thèse classique des manuels d'histoire. Les États-Unis ont triomphé de tous leurs ennemis, indiens, espagnols, allemands, russes, puisque Dieu était du côté américain. Mais dans la strophe conclusive et subversive, Dylan évoque la figure du traître Judas. Lui aussi, pendant la dernière scène, était assis à côté de Jésus. Les félons sont aussi « With God on our side ». Ce ne sont là que quelques exemples de la contre-culture chrétienne des années 1920-1970, où le Dieu des armées de la loi et de l'ordre n'a en tout cas pas la cote. La position de certaines dénominations et la culture populaire témoignent que les milieux religieux américains sont profondément étrangers et divisés par la notion de guerre. Il existe, je le montrerai tout à l'heure, des tensions, des revendications contraires qui vont parfois jusqu'au schisme. J'en viens maintenant à mes grandes parties chronologiques et ce premier moment sur les guerres coloniales contre la Nouvelle-France et les Amérindiens. Avant la naissance des États-Unis, maintes guerres opposent les Britanniques des 13 colonies aux tribus amérindiennes et aux colons de la Nouvelle-France. Il s'agit le plus souvent de guerres d'extension des settlements britanniques sur le wilderness amérindien ou de rivalités entre les puissances coloniales. Dans le prolongement des guerres européennes, les frottements impériaux sont nombreux pour l'établissement des frontières sur telle ou telle rivière, pour la propriété de telle ou telle péninsule, notamment l'Acadie. On peut faire une lecture tout à fait réelle politique de ces conflits impériaux. S'en tenir cependant à ce tableau extérieur et soi-disant réaliste des guerres de l'époque moderne en Amérique du Nord ne suffit pas à mon sens. Les soubassements des conflits sont en effet également idéologiques et comprennent à ce titre un ensemble de considérations religieuses. Les buts de guerre ont parfois une justification spirituelle, qu'il s'agisse de déloger le diable amérindien des régions voisines, des villes de la Nouvelle-Angleterre, ou de chasser, je cite, l'hérésie antichrétienne, c'est-à-dire le catholicisme, de la Nouvelle-France. Certains historiens n'hésitent pas à établir un lien de continuité entre la période moderne et la période contemporaine. Le schème de la guerre religieuse, au nom de l'exceptionnalisme protestant, serait un héritage des puritains du commencement du XVIIe siècle. Il ne faut pas forcer le trait, les nuances sont considérables, bien sûr, mais à l'évidence, selon la formule d'Alexander Layton, prêcheur puritain de la première moitié du XVIIe siècle, je le cite, « Dieu est un excellent homme de guerre ». Et selon le même, je le cite encore, « La Bible est un excellent manuel militaire ». Les puritains du début du XVIIe siècle n'ont guère tardé en effet à associer les Amérindiens avec les forces obscures et maléfiques. Je cite un colon, « Satan règne ici en Nouvelle-Angleterre de manière visible et mesurable, plus qu'en aucun autre lieu du monde connu. » Une plongée dans la littérature puritaine permet de mesurer l'importance du fait militaire dans la spiritualité des habitants de la Nouvelle-Angleterre. Dans son célèbre sermon de la cité sur la colline en 1630, le puritain John Winthrop voit dans la victoire le signe de l'élection divine. Je le cite, « Nous verrons que le Dieu d'Israël est parmi nous, quand 10 d'entre nous pourront résister à des milliers d'ennemis. Winthrop espère également convertir les Indiens, qui serviront, je le cite, de rempart contre le royaume de l'Antéchrist que les jésuites sont en train de construire plus au nord. Les historiens soulignent l'alliance objective entre les ministres puritains et les dirigeants du peuple. L'Église et la milice n'étaient pas en compétition, mais en partenariat. Selon Thomas Sutton, ministre puritain dans les années 1620, je le cite, « Au-dessus de toutes les créatures, Dieu aime tout particulièrement les soldats. Au-dessus de toute action, il honore les projets militaires. » Alors, je pourrais développer de nombreux exemples pour les guerres amérindiennes. Il y en a deux qui sont connus, notamment la guerre contre les Indiens Pecos en 1636-1637, qui culmine dans le massacre mystique, qui n'a de mystique véritablement que le nom. Le deuxième exemple est la guerre dite du roi Philippe en 1675-1676, dont le point de départ est le massacre d'un Indien converti au puritanisme. On pourrait développer également d'autres exemples avec la France. Dans ce conflit entre la France et l'Angleterre, il y a deux conflits qui sont tout particulièrement religieux, celui qu'on appelle la guerre du père Sébastien Rale, je vais vous montrer une image, et un autre conflit dit de l'abbé Leloutre, qui est un prêtre spiritain, qui est l'apôtre des Micmacs, des Indiens Micmacs en Acadie. Sur cette vignette, vous voyez donc le massacre du père Sébastien Rale, qui est un jésuite, en 1724. Il est l'apôtre des Indiens Abénakis, dont on voit à l'arrière-plan les tipis en flammes. La chapelle est également en flammes. Vous avez un Anglais qui donne l'ordre de mettre à mort le père Rale, un Anglais qui exécute la sentence, et les Iroquois, les Mohawks, qui sont les alliés des Anglais. Et sur la vignette de droite, vous avez le père Rale qui est mort dans les bras d'un Indien, et un soldat, un manteau rouge anglais, qui a mis le feu au village à l'arrière-plan. Et le père Sébastien Rale va devenir l'icône, pour le dire avec un vocabulaire très, très contemporain, du protecteur des Indiens. Ça provient d'une église de l'actuel état du Maine, mais qui était autrefois sous influence française. L'Acadie débordait un petit peu. Je voudrais développer un autre argument pour cette période coloniale qui est marquée par le grand réveil protestant au XVIIIe siècle. Et les guerres impériales et le grand réveil protestant sont en fait reliés. Du côté anglais, il y a deux figures théologiques qui dominent ce Great Awakening. Vous avez la figure de Jonathan Edwards, qui est le grand théologien puritain de la première moitié du XVIIIe siècle et qui vient d'une famille religieuse et militaire. Je passe un petit peu sur ses états de service, mais c'est lui qui va imposer une lecture providentialiste du conflit militaire et notamment des victoires. Le deuxième grand nom est celui de George Whitefield, qui est véritablement le père anglican du Revival. Il est farouchement anticatholique. Il a décidé de consacrer sa vie, entre autres, à exhorter ses paroissiens à s'élever en permanence contre la papauté tyrannique et le pouvoir arbitraire. C'est lui qui, en 1745, va prêcher aux troupes anglaises la conquête de la forteresse de Louisbourg sur l'île Royale. Et dans sa prédication, il y a deux thèmes qui apparaissent, celui de David et Goliath et celui de la fidélité à la foi protestante. Je le cite, « Que ta volonté, Seigneur, soit faite et que Louisbourg devienne une garnison pour les protestants et pour tes chers enfants qui t'y adoreront en esprit et en vérité. » La prise de Louisbourg, à l'entrée, donc, qui se situe à l'entrée de l'estuaire du Saint-Laurent en 1745 par les troupes britanniques, revêt dans les témoignages des soldats anglais des allures de croisade protestante antipapiste. Dans ce contexte, Whitefield va également donner de la consistance théologique à ce qu'il appelle la malédiction de Mérose, qui est une formule extraite du livre des juges en 5:23, et qui va ainsi maudisser Mérose, dit l'ange de Yahvé, maudisser ses habitants, car ils ne sont pas venus à l'aide de Yahvé. Cette malédiction de Mérose permet à Whitefield de réfuter et de marginaliser ceux qui s'opposent à la guerre, et notamment les Quakers de Nouvelle-Angleterre. Je voudrais conclure rapidement ce point. Le revival religieux du XVIIIe siècle, qui est assez épuisant dans son intensité, se maintient grâce à la guerre et grâce à la frontière, dont il renforce l'identité et la cohésion sociale. Selon la formule d'un historien, le grand réveil est lui-même réveillé par l'effort de guerre. Il s'agit en quelque sorte d'un processus jumeau de guerre impériale et de renouveau religieux qui s'alimentent mutuellement et qui transforment l'Amérique britannique au XVIIe et XVIIIe siècle. J'en viens maintenant, sans transition, à la guerre d'indépendance et à la guerre de sécession. Et je voudrais essayer de préciser quelle est ma thèse. La guerre d'indépendance et la guerre de sécession présentent, à mon sens, selon la perspective qui est la nôtre, trois points communs. Le premier point commun, les deux conflits opposent deux segments d'une société partageant, au fond, la même culture WASP, blanche, anglo-saxonne et protestante. Il s'agit des patriotes contre les loyalistes, des unionistes contre les confédérés. Il est dès lors impossible de décrire l'ennemi comme un païen ou comme un antéchrist. Deuxième point commun, les deux conflits voient au cours des événements militaires leur finalité revue en quelque sorte à la hausse. Ces finalités sont spiritualisées au fur et à mesure des combats. La lutte avec l'Angleterre, qui dans un premier temps est une lutte politique pour une représentation parlementaire et contre les impôts fixés par la métropole, devient une guerre d'indépendance. La guerre de sécession, qui en 1860-1861 a pour premier enjeu la survie de l'Union, devient à partir de 1863 une guerre pour la liberté et pour l'abolition de l'esclavage. Et enfin, troisième point commun, troisième analogie en lien avec celle que je viens de mentionner, les deux chefs de guerre, Washington et Lincoln, sont assez tièdes sur le plan religieux dans un premier temps, mais enrôlent la Providence dans les faits d'armes et développent une lecture de plus en plus providentialiste au fur et à mesure de cette spiritualisation des enjeux. In fine, la mobilisation religieuse apparaît comme en demi-teinte, à la fois plutôt absente dans les fondations, croissante au fil du conflit, mais toujours prudente du fait de la complexité sociale et causale de l'état de guerre. Alors, dans les guerres révolutionnaires, la dimension religieuse n'est pas la cause déterminante, n'est pas la cause première. On le sait, il s'agit avant tout de conflits politiques, de conflits coloniaux, les raisons sont d'abord politiques, fiscales, territoriales, etc. Les principaux pères fondateurs n'échappent pas au climat de piété de leur époque, mais ne sont pas en eux-mêmes très religieux. Ni Benjamin Franklin, ni Thomas Jefferson, ni James Madison, ni John Adams, ni Alexander Hamilton ne sont d'un parti des dévots qui, au sens strict, n'existe pas à ce moment-là. George Washington, anglican, lui croit sincèrement en un Dieu qui gouverne l'univers et intervient dans l'histoire du monde pour soutenir les justes, mais il ne parle jamais du Christ et se rend rarement à un service religieux. Il n'hésite pas cependant à jouer de la fibre religieuse pour entretenir le moral des milices coloniales et suggérer des buts de guerre. 20 000 Bibles sont ainsi distribuées sur son ordre à l'armée coloniale, à l'armée continentale, en 1777. Il rend obligatoire pour les soldats et les officiers l'assistance régulière à un office religieux. Au moment de la signature du traité d'alliance avec la France en 1778, dans son ordre général du mois de mai, Washington écrit, je le cite, que le Dieu tout-puissant de l'univers, dans sa divine bonté, défend la cause des États américains unis. Parmi les révolutionnaires, il y en a à vrai dire qu'un seul, Patrick Henry, c'est sans doute le plus religieux, et c'est lui qui va, dans un célèbre discours du mois de mars 1775, intitulé « Give me liberty or give me death », discours du reste très largement reconstitué post-mortem, c'est lui qui lance cette formule « Un appel aux armes et aux dieux guerriers et tout ce qui nous reste ». Dernier exemple que je développerai pour les guerres révolutionnaires, George Whitefield a eu l'infortune de décéder dans un petit village au nord de Boston qui s'appelle Newburyport, et il est enterré dans ce village. Les troupes qui partent de Boston font une étape à Newburyport avant de se lancer à la conquête de la province de Québec qui est à ce moment-là tenue par les Anglais. Et il y a un prédicateur puritain qui, sur la tombe même de Whitefield, sur la tombe même de l'auteur du Great Revival, eh bien, va prêcher la croisade contre les catholiques, contre Londres, la nouvelle Babylone, la nouvelle Rome, la capitale désormais qui incarne l'autoritarisme et l'oppression. Et les soldats vont aller prendre les vêtements de Whitefield, qui est enterré donc juste en dessous, pour s'en servir comme des reliques pour chasser les catholiques de la province de Québec. Il faudrait prendre d'autres exemples pour les guerres avec l'Angleterre. J'en prendrai encore qu'un seul. La deuxième guerre d'indépendance, celle de 1812, 1815. Cette deuxième guerre, qui n'est pas très glorieuse dans l'histoire américaine parce qu'elle se finit sur un statu quo diplomatique et chacun finalement revient sur ses territoires et sur ses frontières, est l'occasion quand même de l'écriture de l'hymne de ce qui deviendra un siècle plus tard l'hymne américain. Et c'est dans ce fameux poème, The Star Spangled Banner, que l'on trouve cette formule. Alors nous devons conquérir si notre cause est juste. Et alors, notre devise deviendra « In God is our trust ». Donc, c'est dans le conflit même militaire contre l'Angleterre que l'on trouve l'origine de ce qui deviendra, dans les années 1950 seulement, ce fameux « In God we trust ». Donc, c'est le président Eisenhower qui en fera la devise des États-Unis. Pour la guerre de sécession, la question religieuse se pose également de manière complexe. En 1860, évidemment, la religion est un élément central de la vie politique et culturelle des États-Unis. Pour vous donner une idée, un historien a calculé qu'il y avait une banque pour 35 églises dans les États-Unis en 1860. Et au moment même de la sécession, à l'hiver 1860-1861, la religion ne joue pas une cause déterminante. À l'arrière-plan, ce qui prévaut, ce sont bien sûr des questions constitutionnelles, le droit des États, le droit à la sécession, est-ce que la Constitution est un contrat dont on peut sortir, etc. Et cependant, au fur et à mesure de l'avancement du conflit, dont les pertes sont effroyables, on assiste à un rechargement religieux de la guerre civile. Et on note à la fois une intensification de la religion populaire et une furie schismatique, je cite là un historien. La guerre de sécession induit littéralement des schismes dans un certain nombre de dénominations, puisque la plupart des communautés religieuses vont alors se diviser selon la ligne raciale et sectionnelle, donc entre le Nord et le Sud. On assiste à la création sur une large échelle des premières églises noires. Les presbytériens, les baptistes, les méthodistes et un certain nombre d'autres vont se diviser entre des Black Church et des Southern Church. Et il y a là quelque chose de très important pour comprendre la complexité de la vie religieuse aux États-Unis aujourd'hui. Je voudrais simplement, de cette revitalisation religieuse du conflit, prendre quelques exemples dans la musique militaire. L'hymne de la Confédération, qui s'intitule « Dixie », se conclut par un appel aux armes pour, je cite, « conquérir la liberté », je cite encore, « jusqu'à ce que l'œuvre du Seigneur soit complétée ». Et je ne développe pas ce point, mais il existait toute une argumentation religieuse dans le sud des États-Unis pour justifier l'esclavage. Dans le nord, l'hymne des armées de l'Union est connu sous le nom de « The Battle Hymn of the Republic ». Et cette chanson, qui est l'une des plus populaires aux États-Unis, est imprégnée d'un millénarisme dès sa première ligne, que je vous traduis. « Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur ». Les deux dernières strophes évoquent la teneur apocalyptique du conflit. Dieu est en marche, il convoque les justes, les trompettes appellent, et non pas pour la retraite, mais pour la victoire. Puisque Dieu est mort pour sanctifier les hommes, nous aussi nous pouvons mourir pour rendre les hommes libres. Associant de manière assez neuve, me semble-t-il, le sacrifice du Christ, le sacrifice de l'homme pour la liberté, et associant sainteté et liberté dans un cocktail assez original. La guerre civile, il faudrait développer tout cela de manière beaucoup plus profonde, mais au fond, en opposition de souche du protestantisme, de sensibilité, et évidemment, il n'était pas simple de recoller les morceaux au lendemain de la guerre, en 1865. Cette tentative de réconciliation, c'est sans doute Abraham Lincoln qui dans son discours inaugural lors de son deuxième mandat, donc au mois de mars 1865, c'est lui qui en propose l'élaboration la plus forte et en tout cas la plus efficace pour ses concitoyens. Ce discours inaugural ressemble davantage à un sermon qu'à un discours d'homme d'État. Je le cite, « Les deux camps lisent la même Bible et prient le même Dieu, et pourtant chacun invoque son aide contre l'autre. Les prières des deux camps ne pouvaient recevoir de réponse, celle d'aucun des deux camps n'a été exaucée pleinement. Si Dieu veut aujourd'hui la fin de l'esclavage, cette terrible guerre, explique Lincoln, apparaît comme le malheur mérité par ceux qui sont à l'origine de ce péché. La sentence divine, Lincoln la voit dans la mort des soldats de l'Union et de la Confédération, et il invite ses concitoyens à l'accepter. Nous espérons du fond du cœur, nous prions avec ferveur que ce terrible fléau de la guerre s'achève rapidement. Si cependant Dieu veut qu'il se poursuive jusqu'à ce que chaque goutte de sang jaillit sous le fouet donc de l'esclavage, soit payée par une autre versée par l'épée du conflit, comme il a été dit il y a 3000 ans, il nous faudra reconnaître que les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Le sang de l'esclavage est racheté par le sang de la guerre, le fouet cause l'épée. La figure du Seigneur des armées, du carnage en l'occurrence, cède désormais à la fin du conflit devant le Dieu de justice, celui qui rend juste sentence en toutes choses. Le Sud, à l'agonie, ne pouvait guère prétendre de toute façon au contraire. Le sort des armes décidant en l'occurrence de la justice de la cause. Donc, un cas compliqué que celui de la guerre de sécession, et le troisième moment sur les guerres du XXe siècle, cet âge des croisades, je serai un petit peu plus rapide. Cette première croisade, pour les historiens américains, c'est véritablement on emploie le terme de croisade en 1898 dans le conflit contre Cuba, enfin pour Cuba et les Philippines, contre l'Espagne. On raconte souvent cet épisode du président McKinley au moment où il doit prendre la décision de coloniser les Philippines. Il ne sait pas très bien comment résoudre son conflit intérieur. Faut-il faire comme les Européens, une politique impériale? Faut-il laisser les Philippins tenter de se gouverner eux-mêmes, alors que pensent-ils, ils en sont tout à fait incapables? Et le président McKinley va se mettre à genoux, va demander au Seigneur de l'inspirer, et la réponse du Seigneur tombe. Explique McKinley, il n'y a pas d'autre solution pour nous que de prendre les Philippins, de les éduquer, de les civiliser, de les christianiser, et par la grâce de Dieu, de faire tout le bien que l'on pouvait pour eux, nos frères en humanité, pour qui le Christ est également mort. Alors naturellement, les historiens de la diplomatie tournent en dérision ce récit de McKinley, mais après tout, comme c'est un des présidents les plus pieux de son époque, et même un peu après, eh bien l'argument doit être reçu, à mon sens, en tant que tel. Il était profondément convaincu, non seulement de la divinité du Christ, mais également de la puissance unique du christianisme pour civiliser le monde. Pour les deux guerres mondiales, il y a évidemment un grand nombre de points communs sur le plan américain. Il existe des analogies dans la manière de concevoir les deux conflits, je crois. On retrouve ainsi la même dénonciation similaire de la brute allemande. Le Kaiser est l'associé du diable. Il y a une série de documents à la librairie du Congrès sur cette question-là. Il y a une extrême mobilisation du religieux, non seulement par les images, mais par les chansons de guerre, par la rhétorique, la rhétorique présidentielle. Et je voudrais très brièvement mentionner le cas de Wilson, qui est naturellement le plus connu, fils d'un pasteur presbytérien qui justifie religieusement le conflit. Et évidemment, il mobilise les notions de devoir, de mission, de civilisation. Mais la croisade américaine est en même temps d'un même mouvement séculière, puisque dans les buts qu'elle poursuit, elle lie indissolublement les libertés de croire, de voter, de commercer, de naviguer, visant à répandre dans le monde entier les valeurs des États-Unis. Pour Franklin Delano Roosevelt, le religieux est extrêmement mobilisé. Alors j'avais prévu quelques vignettes, mais donc ça c'est pour la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale avec également les chevaliers de Colomb, qui soutiennent les églises, le discours sur les quatre libertés de Roosevelt. Et Franklin Delano Roosevelt, peut-être en trois phrases, en 1941, au moment où il rencontre Churchill, a la ferme intention de lancer une croisade. On chante « En avant, soldats du Christ », un office religieux est célébré entre Churchill et le président Roosevelt, et Roosevelt va mobiliser tout cet arsenal religieux qui est à sa disposition. Un dernier point très rapide sur la guerre froide que je traiterai simplement à partir de quelques vignettes. Peut-être une seconde sur cette vignette, c'est une des grandes chansons patriotiques des États-Unis en 1942. Praise the Lord and pass the ammunition, donc littéralement louez le Seigneur et passe-moi les munitions. Et le Paul, qui est un des grands succès populaire de la musique américaine, de la guerre. Et qui sera détourné pendant la guerre du Vietnam, avec cette vignette qui met en scène le cardinal Spellman, « Pass the Lord and praise the ammunition », le cardinal Spellman étant dénoncé comme étant le cardinal qui, par excellence, milite en faveur de la guerre. Mais en même temps, la guerre du Vietnam est l'occasion d'une opposition assez forte d'un certain nombre de prêtres et d'un certain nombre, naturellement, de laïcs. Et à l'arrière-plan de la guerre du Vietnam, il y a un certain nombre d'enjeux religieux que je ne développe pas, mais il y a là des questions importantes. En conclusion, je voudrais simplement évoquer la seconde guerre d'Irak du printemps 2003, la seule dont j'ai été le contemporain. En février 2003, je suis à Rome et j'assiste aux grandes manifestations pacifiques. C'est le moment où le cardinal Etchegaray venait de se rendre à Bagdad pour rencontrer Saddam Hussein dans un ultime effort de conciliation. Entre 2002 et 2005, je suis en même temps, je passe un certain nombre de semestres aux États-Unis entre Chicago et l'University of Notre Dame. À Chicago, je logeais alors chez les franciscains, pacifistes par essence, et dans la paroisse voisine des franciscains, paroisse hispanophone, les homélies portaient sur le dernier scandale financier, sur la pauvreté, sur l'importance de la paix. Sur le campus de l'University of Notre Dame, bastion des catholiques irlandais, je découvre au contraire une profonde division de la communauté catholique. Certains étaient farouchement et viscéralement hostiles à la guerre. Des intellectuels catholiques comme Alasdair MacIntyre appelaient publiquement à s'abstenir aux élections de 2004 qui ont vu la réélection de George Bush. Certains étudiants et certains professeurs étaient au contraire très bellicistes. Ils lisaient la revue First Things, ils admiraient des auteurs comme Michael Novak et George Weigel, qui, tout en se présentant comme les amis de Jean-Paul II, tenaient depuis 2001 une position très nationale catholique. C'est non seulement dans ce contexte que j'ai compris la signification toute anglicane d'une low church et d'une high church, appliquée cette fois à l'Église catholique, mais aussi que j'ai pu mesurer l'extrême intensité du nationalisme religieux et du pacifisme chrétien. Aux États-Unis, comme la guerre de sécession en avait témoigné, la guerre se surimposant à des questions morales, sociales et théologiques semble parfois le lit de tensions extrêmement violentes à l'intérieur des confessions. Au terme de ce survol de 5 siècles d'histoire, on me concédera à minima que l'art américain de la guerre se définit aussi dans la forma mentis des guerriers par la présence continuelle de la donnée religieuse, puritaine à l'origine et judéo-chrétienne aujourd'hui. Saint Augustin invitait le soldat à demeurer, je cite, « pacifique même en faisant la guerre, pour obtenir à ceux qui sont vaincus en les vainquant le bienfait de la paix ». L'art américain de la guerre semble parfois se fonder sur une lecture optimiste, voire naïve, du propos d'Augustin. Pour les États-Unis, la guerre entend être une promesse de démocratie, au sens où la démocratie serait le bienfait obtenu grâce à la victoire. La guerre est pensée comme un raccourci sur le chemin de la destinée manifeste, comme l'art de repousser la frontière de la démocratie, comme un moyen d'étendre la surface agricole utile de la terre promise, en négligeant peut-être le fait que la terre promise n'est pas d'abord une terre conquise, mais une terre donnée, et je rejoins là les propos de M. Remer tenus hier matin. Je vous remercie. Thank you.